les copines, dernière ligne droite. Avant qu'on se... On est crevé, ouais, on va se donner un peu de punch. Dernière ligne droite avant d'être délivré de notre esclavage, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Alors, on va reprendre une Torah qu'on avait déjà faite. Et je me suis dit, on va encore un peu la développer. C'était la Torah Kouf Yutet, la 119. Vous rappelez, les gens qui ont beaucoup de richesses, beaucoup de trucs, c'est Olam Hazé, le Olam Haba, vous ne vous rappelez peut-être pas.
Oui.
Bon, on va la développer, d'accord? Et on va voir, Bémet, le lien qu'on va faire avec Pessah, ok? Alors, Rabbi Nachman a souvent parlé avec nous des souffrances de ce monde, car les êtres humains sont tous pleins de souffrances. Bon, je ne vais pas tout développer maintenant, d'accord? Parce qu'on l'avait déjà fait, plus ou moins. Je vais avancer pour arriver là où je veux arriver, mais je pense que bon, il y a plein de choses en réalité, ce n'est que des évidences. D'accord ? Donc on ne va pas développer les évidences. Il n'existe ainsi pas une seule personne qui ne jouisse de ce monde-ci. Et même les grands riches ou les notables ne profitent pas vraiment de ce monde, car leur vie entière n'est que frustration et déception. Ah, j'ai mis ? Attends. Ouais. Ils sont constamment en proie des préoccupations, à la tristesse, au chagrin et à la peine. Chacun connaît des épreuves spécifiques et il n'existe pas une personne, même parmi les notables, même parmi les nobles et les riches, chez qui tout se déroule parfaitement comme elle l'espérait. D'accord ? Donc jusqu'à présent, on est tous d'accord, il n'y a rien de... Enfin, c'est des évidences mais auxquelles on ne pense pas toujours. On est toujours avec nos espoirs. D'accord, vous vous rappelez, on avait parlé de ça. On a toujours cette nous, on vit avec nos espoirs, nos envies, nos demandes, notre volonté à nous. Et notre grande souffrance, c'est que souvent notre volonté ne se fait pas. Et c'est la volonté d'Hachem. Et c'est là où ça clash, en fait. D'accord. Donc, en réalité, c'est des peines qu'on accumule et des frustrations et des énervements. Et on va voir où c'est que ça nous mène tout ça. Et donc là, il nous le dit, cette chose est claire et avérée pour tous ceux qui les connaissent et sont au courant de leur mode de vie. D'accord ? Donc si chacun, il essaye de réfléchir un petit peu sur sa vie, on appelle ça les hitbonen, ça veut dire, maman, tu t'assois, tu réfléchis un peu sur... Tu te diras, mais combien je me suis énervée, combien je me suis pris la tête et combien j'ai lutté pour obtenir des choses, mais en fin de compte, est-ce que ça m'a vraiment rempli? Est-ce que ça m'a vraiment apporté, tu vois, la satisfaction, le bonheur, la sérénité? J'en sais rien, en fin de compte. Et donc, Rabbi Nachman nous a souvent parlé de ce sujet, et même pour celui qui s'imagine posséder totalement ce monde et bénéficier de tous les plaisirs, la richesse, les biens, les honneurs, une fortune considérable, des grands châteaux, de la vaisselle de choix, des bijoux et des trésors royaux, si l'on observe bien cette personne, elle est également souvent remplie de colère, sujette à de nombreuses déceptions, manifestées de diverses manières et sous diverses formes, comme on peut le constater concrètement. Pareil, d'accord, il y a malheureusement une vraie vérité. Plus tu as des honneurs, des richesses, des maisons, des bijoux, des machins, des trucs, plus bémet tu vas te prendre la tête et surtout, moins tu auras d'amis. D'accord ? Ça, c'est la vraie vérité, ok ? Quand tu es au top de ta vie, tout le monde est là et tu as plein de copains et c'est super. Quand tu es en chute, d'accord, eh ben, il n'y a plus personne, d'accord. Et surtout, si tu viens leur dire « j'ai besoin d'aide », « ah mince, justement hier, j'ai déjà tout donné, je suis embêtée ». Bon, c'est des vérités. On l'avait lu, c'est ce que je t'ai dit, mais on va la voir sous une différente manière, justement, d'accord. Donc, c'est des vérités. Et puis, une personne, encore une fois, plus tu cours vers toutes ces choses-là, parce que tu comprends bien, je pense qu'on est toutes, on a tout un grand cercle d'amis, on connaît beaucoup de monde, on entend plein de choses. Statistiquement parlant, tu as très peu de personnes dans ce monde qui sont très riches, qui ont tout ce que tu veux et qui sont arrivées à ça en restant assis chez eux à se rouler les pouces. D'accord ? En général, tu as bossé dur et tu as été mévataire, ça veut dire tu as... Comment on dit l'évataire ? Tu as... Non. L'évataire, ça veut dire tu as même dû abandonner certaines choses essentielles, d'accord ? Pour pouvoir arriver, d'accord, à obtenir donc cette fortune. Et malheureusement, après, si tu vas encore dans les stats, Combien de gens travaillent très, 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 très dur, vraiment, ils travaillent du matin au soir et tout, pour gagner quoi en fin de compte? Presque rien, d'accord? C'est-à-dire que même dans ce groupe de personnes qui vont se tuer au travail, qui vont se tuer, d'accord, à des fois au prix de la famille et de leurs enfants et même de leur mariage, d'accord? De dire, ben, maintenant, je ne peux pas me marier, je n'ai pas le temps, je parle pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde. Combien de personnes bémettes, si tu veux, sont arrivées à amasser une fortune? Et combien de personnes, après tout ça, tu te dis, mais attends, ils ont bossé comme des dingues. Ils sont toujours, ça veut dire, au même point, ils n'ont pas avancé, ils ont encore des dettes et des machins, ça veut dire... T'as jamais. Et même, comme il te dit, même celui qui s'imagine, allez, t'as tout ce que tu veux, d'accord? Toutes les richesses du monde. Même celui-là, sa vie, elle est pleine de frustration, de déception, de peine et de tout ce que tu veux. D'accord?
Tu parles pas que des choses matérielles.
Toutes les choses. Mais là, regarde.
D'accord, parce
mais
que non,
là on attends.
Beaucoup des choses matérielles.
Attends, justement.
Moi, la vie, c'est pas... Voilà.
Attends. Là, pour l'instant, il te parle des choses matérielles. D'accord. D'accord?
Parce que les frustrations, elles sont aussi spirituelles. Et...
On va y arriver deux secondes. Mais là, il te parle déjà du matériel. C'est-à-dire, là, tu sais quoi? On parle, nous tous, c'est la vie de tout le monde. D'accord? On va pas commencer à se raconter des histoires, genre on est à fond dans la spiritualité. Non. Tous les matins, tu te lèves pour aller bosser, bien sûr. Tous les matins, tu te lèves et t'as envie d'avoir une maison, t'as envie d'avoir une voiture, t'as envie d'avoir des vêtements, t'as envie. D'accord? C'est la vie. Bon. Donc, il te parle déjà de toutes ces choses, on va dire, très, très, très terre à terre. Et donc, il avance en te disant, il n'est pas nécessaire d'expliquer ceci à celui qui est doté d'un peu d'esprit et qui prend la peine de véritablement observer un tant soit peu ces choses. D'accord ? Donc, encore une fois, là, il faut prendre le temps pour regarder les choses. Parce que souvent, tu ne prends pas le temps, tu passes ta vie. Et on est tous un peu, d'accord, concernés. La course, d'accord? On est dans une course effrénée du matin au soir, toute la semaine et tous les mois et toute l'année et toute la vie, ok? Et donc, c'est vrai que tu ne prends même pas, en réalité, des fois, le temps de réfléchir et te dire, bon, mais où je vais là? Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça m'emmène, tout ça? D'accord? Qu'est-ce que ça me procure? Est-ce que Béhémeth, ça m'a rendu heureux, tout ça? Est-ce que Béhémeth, ça m'a rempli? Tu comprends? Tu cours. Et combien aussi, on les a oubliés ceux-là, ils ont, je sais pas qu'ils n'ont pas, ils ont, mais attends, faut laisser un héritage. D'accord? Donc ça aussi, tu travailles pour laisser un héritage, et encore ça, et encore ça, et encore... Tu te dis, bon, c'est bête, il pourrait s'arrêter, profiter. Non, jamais tu vas profiter parce que c'est toujours encore. Parce que ça, c'est ce monde.
Il y a des gens pour qui le travail, c'est aussi un profit. Hein.
C'est-à-dire ?
Il y a des gens qui aiment ce qu'ils font.
Ah oui ?
L'accomplissement d'eux-mêmes.
Attends, je ne t'ai pas dit. Tu peux. Moi aussi, j'aime mon travail.
Non.
Tu as raison ce que tu dis. Mais attends. Tu as raison dans ce que tu dis. Et heureusement qu'il y a des gens qui aiment leur travail. Et je pense que c'est le plus grand des cadeaux. D'accord? Mais même quand tu aimes ce que tu fais, apprends. Prendre du temps. Prendre du recul. Réfléchir. Où je vais? Qu'est-ce que je fais?
Oui,
tu comprends ce que je veux te dire? Je suis pas en train de te dire. Il est pas du tout en train de te dire. Ici, il te mène une constatation. Il te dit, regarde. T'as des gens, d'accord? Et on en fait partie, hein. On va pas dire c'est les autres et nous, non. Nous tous, chacun à son niveau. D'accord? On court, chacun pour quelque chose. À la fin de l'histoire, t'es heureuse, t'es calme, t'es sereine, t'es pleine de simra, t'as du shalom bayit.
Non. Bien sûr que non. Il manque toujours quelque chose.
Voilà, je suis contente. Tu es émette.
Donc. Non, il manque toujours quelque chose. Quand on a ce qu'on veut, on veut autre chose. Et quand celui qu'on croit qu'il a tout, lui veut quelque chose.
Voilà. Ouais. Ça, c'est la vie. Parce que je vais t'expliquer. Ça, c'est ce monde. Attends, écoute maintenant la suite et on va en parler, d'accord? Donc, on est d'accord pour l'instant toutes les deux, ok? Alors après, maintenant, il commence à dire comme ça. Donc, tout est clair, tout est ok, on est tous d'accord. Après, il dit comme ça, « C'est ainsi que le roi Salomon, que la paix soit sur lui, a affirmé, tous ces jours, donc c'est dans le livre Qohelet, tous ces jours ne sont que colère et frustration. » D'accord? Il a parlé, donc il a affirmé sur... l'être humain, tous les jours, c'est des mini-colères même. Tu sais quoi ? Tu te prends des mini-colères, des mini-frustrations. Tu sais quoi ? Simple. Celui-là, il ne t'a pas fait le sourire comme tu voulais. Il ne t'a pas dit bonjour. C'est des frustrations. Tu as été là pour quelqu'un. Il t'a dit à peine, oh, c'est sympa. Comment c'est sympa ? Je suis morte pour te faire ce truc-là. Tu comprends ? C'est des mini-trucs, mais toute la vie, c'est comme ça. Et comme il est écrit par ailleurs, l'homme est né pour l'effort, peu de jours à vivre et rassasié de troubles. Donc là, ici, ça s'est marqué dans Yov, dans Job, d'accord, qui te dit « L'homme est né pour l'effort ». Ça veut dire que déjà, ici, il faut que tu comprennes, la vie est ainsi faite. On est venu dans ce monde pour faire des efforts. Maintenant, on va voir dans quoi on doit faire les efforts.
Attends. Pas la faute originelle, le fait qu'on soit né pour l'effort, c'est pas apparu après.
Bien sûr, une fois qu'il y a eu la faute, et ben justement, il y a eu un dérèglement dans le monde, et on est donc né pour faire des efforts. Mais Adam Vechava aussi devait faire un effort.
Oui.
Attendre. Oui. Juste attendre. Encore un peu, tu vas pouvoir prendre de ce fruit. Mmh. Tu vas pouvoir goûter de cet arbre. Attends, c'est un travail.
Oui.
T'as compris ce que je veux dire ?
Oui,
on est tous nés, d'accord ? On est tous nés pour faire des efforts. On n'en a pas du tout, tu peux dire. Alors, il te dit comme ça, « Ceci englobe tous les êtres humains de ce monde, du plus petit au plus grand, car tous sont nés pour la douleur et sont remplis de frustration et de souffrance. » Bon. Tu vas me dire, c'est quoi cette angoisse ? On n'est pas du tout dans le positif, c'est quoi ça ? Mais, attends, on va y arriver maintenant. Ça, on a posé des choses, d'accord ? Alors, c'est vrai que, tu sais quoi ? Dit comme ça, on se dit, c'est vraiment pas sympa en fin de compte, c'est pas positif, on n'est pas dans le truc. Mais, tu sais quoi ? C'est la vérité. Combien de souffrances on a ? Combien de peines on emmagasine ? Et pas seulement nous. Prends tout ce qu'on a accumulé, d'accord, de génération en génération, parce qu'on se les passe, hein, les caisses, d'accord ? On trimballe avec nous. Jusqu'à maintenant, on trimballe encore avec nous la caisse de Adam Vechava. Et pense après tout ce qui s'est passé les générations.
Oui, mais si on pense qu'on est là pour faire du tikkun, c'est plus positif.
C'est clair qu'on est là pour faire de la réparation. De toute façon, c'est que de la réparation, ce monde.
C'est plus positif de se dire les choses comme ça, que comme ça.
Là, je t'ai dit d'abord, on a posé les faits. D'accord ? Pour qu'on se dit, bon ben voilà, c'est vrai, le monde il est comme ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est de tous les temps. D'accord ? On se trimballe donc, si tu veux, tous ces boulets avec nous. Alors maintenant, encore une phrase, et après on va aller dans le propre, sympathique. Et là il te dit comme ça, tu dis, bon alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi cette angoisse ? On n'a plus qu'à se suicider en fin de compte, parce que c'est quoi cette vie ? Des peines, des souffrances, des peurs, des angoisses, des troubles, c'est quoi ? Et là, il te dit, écoute, il n'existe aucune solution ni conseil permettant d'échapper à cette douleur et à cette peine. Parce que ça, c'est une réalité, d'accord ? Ça veut dire, c'est la vie. Et il te dit, si ce n'est en se réfugiant chez Hachem et en se consacrant à la Torah, comme il est rapporté dans le Midrash, l'homme est né pour l'effort, on l'a dit tout à l'heure. Heureux celui qui peine pour la Torah. Si déjà on est né pour un effort, pose-toi la question, mais alors où je vais mettre mes efforts ? Où je vais mettre mes énergies ? Dans la Torah. Maintenant, c'est quoi la Torah ? Parce que là, on pourrait dire, ben, je ne me sens pas concerné, je ne suis pas un homme. Je ne vais pas aller m'asseoir toute la journée étudier la Torah. La Torah, c'est une Torah de vie. C'est dans comment tu vas te comporter. C'est bien sûr l'étude. C'est dans le cœur. C'est comment je vais me comporter. Comment je vais réagir face aux événements. Est-ce que je vais réagir justement en prenant du recul, en mettant Hachem au-dessus de tout, en ayant cette émouna, ou alors je vais mettre mes efforts justement à trimer et à me dire en pensant que je suis le centre du monde et que tout doit passer par moi et que toute la réparation, en réalité, c'est moi qui dois la faire, uniquement. Et là, ça devient quand même plus difficile comme travail. Et il te dit, en d'autres termes, dès lors que tout homme est né pour l'effort, il est impossible d'y échapper, de quelque manière que ce soit. quand bien même ils posséderaient tout ce qui existe dans ce monde. C'est vrai, des fois, tu as des gens, ils n'en peuvent plus. D'accord ? Bon, alors, tu as certaines personnes, ils disent, tu sais quoi, j'en peux plus, je supporte plus, je m'en vais. Tu peux partir en vacances, tu peux quitter ton foyer, tu peux te sauver au travail.
Tu peux
aller à Goa.
Tu peux aller à Goa.
À Goa, tout ce que tu veux. Et puis aussi, tu peux aussi développer, d'accord, certaines maladies que Dieu présente, oui, que Dieu préserve. Oui. Et donc, quelque part, c'est aussi une forme. Je m'en vais.
Oui, bien sûr.
D'accord ? Je démissionne. Donc, mais il te dit une chose ici. Ce pourquoi tu es venu dans ce monde, le travail qu'Hachem, il attend de toi, la réparation pour laquelle tu es venu, tu ne pourras pas y échapper. D'une manière ou d'une autre, il faudra que tu le fasses. Hachem ne t'abandonnera pas.
Mais justement, alors, tu ne crois pas que, juste avant, tu as dit que la seule façon, il n'y a pas de solution à tout ça et tout, la seule manière, c'est d'aller vers Hachem et tout. Alors, tu ne crois pas que, justement, on a une réparation. Mais si en parlant avec Hachem, tu ne le lâches pas, Hachem, tu lui dis voilà. Hachem, il change ta réparation ou il te la fait vivre peut-être différemment.
C'est pas qu'il te la fait vivre différemment ou il te la change. C'est toi en réalité qui va percevoir les choses différemment. Toi qui, si tu veux, à un moment donné, il y avait des choses pour lesquelles c'était essentiel, il fallait que ça marche, il fallait que ce soit. Tu vas prendre donc ton recul et donc du coup ça devient plus essentiel. Tu vas dire, tu sais quoi, en fin de compte, ça vaut pas la peine que je m'énerve et que je m'angoisse et que je me stresse et que j'ai de la peine. Non, tu comprends ce que je veux te dire ? Pareil pour la joie. Pareil pour la joie. Il y a des avec le temps, des fois, tu t'aperçois que même les joies simples, en fin de compte, tu comprends, elles t'amènent une vraie simcha dans le cœur, elles te procurent quelque chose dans le cœur. Il y a des fois des personnes, on a tous passé par là. Tu vois, des choses très grandes vont nous apporter de la joie et j'ai besoin de ça. Puis à un moment donné dans ta vie, tu te dis, en fin de compte, la joie, c'est pas si inaccessible. C'est quelque chose aussi qui est très proche de toi, en fin de compte. Mais pareil, il te faut, si tu veux, une certaine perception pour ça. Mais ce qui est certain, c'est que Hachem, chacun de nous, il nous a fait venir dans ce monde pour un but. Il y a une finalité à tout ça, d'accord ? T'es pas venu simplement pour dire tous les jours je fais n'importe quoi. Il y a une finalité. Et Hachem, il va te faire passer par ce chemin, d'accord ? Après, encore une fois, comment tu vas réagir ? Il est clair que quand tu réagis en pensant avec Dieu, on va dire, quand tu réagis avec Dieu dans ta tête et quand tu réagis sans Dieu dans ta tête, la réaction n'est pas la même. Tu comprends ? Donc, que tu le veuilles ou pas, ce pourquoi tu es venu dans ce monde, tu vas devoir le faire. Alors, il y a une question qu'on pourrait se poser aussi. Peut-être. Je dis peut-être. Hein. Je pourrais dire, bon, alors, puisque Hachem, il nous amène dans ce monde pour faire une chose. Et il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous laisser. On pourrait dire, bah, alors, pourquoi faire ? Il y a des réincarnations. Ça m'est monté, on peut tous réfléchir en même temps. Pourquoi faire des réincarnations ? Si chacun, on est venu et qu'il ne nous abandonne pas, alors pourquoi faire ? Je n'ai pas fini mon job, je reviens. Mais ici, il te dit, il est impossible d'échapper de quelque manière que ce soit. Quand, ça veut dire, ce que tu dois faire dans ce monde, tu dois le faire. Hachem, il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te laisser. Tu dois finir le travail. C'est-à-dire que quand tu nais, d'accord ? Hachem, il a déjà prévu tout ce qui va se passer jusqu'à la fin. Il sait où il veut t'emmener. Et il va te faire passer par toutes sortes de chemins pour t'y emmener.
Oui, mais peut-être que tu n'as pas eu le temps.
Le Emouna, à chaque fois, encore plus fort.
Pourquoi ? J'ai pas bien entendu.
Pour nous emmener vers un niveau de Emouna encore plus fort, plus puissant.
Peut-être qu'il y a aussi une réparation qui doit se faire.
Peut-être
d'accord ?
C'est une réparation tout simplement de toutes les épreuves qu'on a sur notre chemin pour arriver au but final. Pour arriver au but final, on passe par un certain chemin.
Oui.
D'accord, le chemin finalement que, entre guillemets, on choisit, même si c'est une volonté d'Hachem, tu vois.
D'accord.
Par rapport aux efforts qu'on va faire.
Ok, si peut-être. Tu peux, bien sûr.
On est d'accord que c'est la Neshama qui a le tikkun.
Oui, bien sûr, c'est pas le corps.
C'est pas nous, donc individu. Mm-hmm. Donc le tikkun, quoi qu'il arrive à le faire, on peut le faire en plusieurs étapes. Le libre arbitre.
D'accord. Attends, le libre arbitre.
Là, on peut prendre la route courte. Et donc, on s'en tient que en pensant à Hachem, en utilisant la Torah et en voulant, en agissant tout en se disant, je me tiens devant Hachem, qu'est-ce que je dois faire? D'accord? Ça, c'est le chemin court pour arriver à son tikkun. Sinon, on revient, je crois qu'on répare.
D'accord.
Mais c'est la même âme qui revient faire le même tikkun.
Peut-être que tu as raison, mais...
C'est une question de temps, on n'a pas
de doute. Pourquoi à chaque fois Rabbeinu nous parle de parler à Hachem et tout? Parce que peut-être que ça, quand tu le fais de ton vivant, c'est de parler à Hachem, c'est comme une preuve que tu laisses auprès d'Hachem, que tu as été attaché à lui, comme a dit. Si tu prends ta vie tu mets Hachem, tu t'attaches à lui, donc en parlant avec lui, tu fais l'écho des doutes. Donc peut-être qu'à ce moment-là, tu as une preuve quand tu quittes ce monde et que à quelques jours au cours, il te dit finalement, elle était attachée à moi, elle a fait tout ce qu'elle a pu. Et du coup, elle n'a pas besoin de revenir, elle a réparé.
Tout ce que t'as
peut-être pas que la force de l'écho des doutes dont il nous parle tant à Rabbeinu, c'est pour que justement, qu'à travers elle, on répare.
Ok, peut-être qu'après il y a aussi, peut-être qu'on n'est peut-être pas aussi, on ne peut pas réparer tout seul, et peut-être qu'après il faut peut-être se poser la question, c'est quoi vraiment la réparation?
C'est pas Rabbeinu qui nous aide à réparer.
D'accord.
On peut avoir besoin d'un autre individu pour accéder à cette réparation.
Alors c'est peut-être ça la réparation.
Oui.
Toute la réparation, elle est peut-être là en fait. On a besoin, si tu veux, d'un avocat, on va dire, pour passer par un mécanicien.
Oui.
Donc voilà, donc Rabbeinu, il voit des doutes.
Ok, d'accord, ok. Ouais, je suis d'accord. Donc il te dit...
Excuse-moi, ça peut aussi ne pas être Rabbeinu, oui. Ça peut être un individu comme toi, comme elle, comme...
Ça peut être d'autres. Je sais. Si on s'attache à un rab, c'est pas important de s'attacher à ce rab, ce qui est important... Il y a marqué, il faut s'attacher à un rave.
Non, mais attends, Rabbi Nachman, ce n'est pas un rave. C'est le tzaddik. Non, ce que je veux te dire, c'est que les rabbanim, c'est sûr, on a besoin d'un rave pour la halakha. C'est obligatoire. Tu as besoin.
Il y a les rabbins qui vont vous dire la même chose pour le rave.
Ah oui, non, mais je suis... Attention, attends.
Et ils sont pourtant aussi dans la vérité.
Non.
Ils s'attachent à leur rave.
Je suis d'accord avec toi, regarde. Il y a plein de tzaddikim. Il y a des rabbanim pour la halakha. T'as des tzadikim, d'accord? Et après, t'as la notion du tzadik.
Oui, c'est ça que je voulais dire quand je disais rab, c'est le tzadik.
Voilà, t'as...
Alors, quel tzadik auquel on s'attache, tant qu'on s'attache à un.
D'accord, parce pour arriver à la fin au tzadik qui te fera ta réparation. Ouais. Alors, tu viens ici, c'est la première fois, et encore une fois, c'est pas moi qui te le dis, c'est écrit, donc si tu veux, tu pourras faire tes recherches. Pour avoir été chabad, donc je sais un petit peu de quoi je te parle, le rabbi lui-même n'a jamais dit qu'il était le tzaddik. Or, Rabbeinu, lui, te dit « Je suis le tzaddik, je suis celui qui peut te faire la réparation de ton âme depuis la création du monde. Je suis le Nachal Ametaher, je suis le fleuve qui va te purifier de toutes tes fautes. » Tu vois ce que je veux dire? Je te le fais en très concentré, hein, donc après, encore une fois, ne te braque pas sur... Non, ce que je veux te dire, c'est que parce que je veux arriver à quelque chose, mais bon, après, on laisse faire Hachem. Ce que je veux t'expliquer, c'est que quand on te parle de la notion du tzaddik, ça ne veut pas, chas v'chalila, venir enlever la grandeur des autres tzaddikim. La seule chose que je vais essayer maintenant de t'expliquer, si tu veux, c'est qu'il y a une racine, et de cette racine, si tu veux, il y a eu plein de branches et de feuilles. Tout le monde puise de cette racine. Cette racine... C'est Rabbi Nachman qui dit « Je suis la racine ». Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, et lui-même, si tu veux, je te passerai des livres, tu pourras lire si tu n'en as pas. Lui-même, il te dit « Je suis celui, en fin de compte, je suis venu dans ce monde pour réparer ». Lui, son job, c'est d'être réparateur. Tu comprends? Et il ne sait pas juste réparer un fer à repasser ou un aspi, il répare tout. Tout est réparé chez Hachem, chez Rabbi Nachman. On parle de la Neshama, de toute façon, bien sûr, c'est le corps, c'est accessoire. Tu comprends ce que je veux te dire? Après, tu es d'accord ou pas d'accord? J'essaye juste de te poser les bases. D'accord? Alors, donc il te dit ici, donc encore une fois, la réparation, d'accord? Même là, c'est lui qui le dit, tu vois. Il te dit, si tu penses que tu peux réparer tout seul... Tu te trompes, tu ne pourras pas. Parce que Bémet, tu peux te casser la tête du matin au soir, te dire, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait comme ça? Tu vas te prendre la tête! Tu vas tomber en dépression nerveuse à la fin, t'en peux plus, tu vas crever. Lui, Rabbi Nachman, il est venu et il te dit quoi ? Écoute, non mais c'est vrai, si Bémet, on essaye de dire « je veux réparer », mais je vais me tuer parce que je ne sais pas moi, je ne suis pas dans les comptes d'Hachem, je ne sais pas qui j'étais, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'en sais rien en fin de compte. Tu comprends ? Je ne peux juste dire à Hachem, « Hachem, dans ma aide des doutes, s'il te plaît, aide-moi à faire ta stricte volonté, mais après... » Tu as une assurance que tu as fait la volonté d'Hachem ? Est-ce que tu sais si quand tu as fait telle mitzvah, tu l'as faite comme il faut ? Personne n'a cette assurance. C'est pour ça que Rabbeinu, il est venu et il te dit, écoute, attache-toi à moi, attache-toi à mes conseils de vie, d'accord ? Et à travers ça, la réparation se fera. Un des conseils de vie que Rabbeinu nous a donné, c'est quoi ? Quoi qu'il arrive dans ta vie, quelle que soit ta situation, sois pas simra. T'es d'accord ?
C'est dur,
hein. T'es d'ac ou t'es pas d'ac là-dessus ? C'est le plus dur ! C'est le plus dur parce que toute la vie, qu'est-ce que c'est ta vie ? Qu'est-ce que c'est ma vie ? C'est tout ce qu'on vient de lire. Crève et lutte et travaille et prends sur toi et vas-y, tais-toi à ce moment-là. Alors t'as envie de hurler et t'as envie de dire je suis pas d'accord. Il faut dire oui, je suis d'accord. Hein ? Mais écoute, viens, je te dis quelque chose, d'accord ? On se connaît pas toutes les deux, mais... C'est la vérité. C'est dur pour tout le monde à un moment donné ou dans la vie. T'as déjà rencontré quelqu'un, toi, il est né zen, il est mort zen. Arrête, ça n'existe pas. C'est du baratin.
Mais ça veut pas dire ne pas être en simra. Non, mais des simra, c'est très dur aussi. Hein.
C'est très dur d'être en simra tout le temps. La vraie simra, attends. La vraie simra, ça veut dire sans alcool, sans joint, sans argent, sans rien. T'es en simra parce que t'es juive. Voilà, tout simplement. T'es en simra, toi, tous les matins, parce que t'es juive ? Non, on n'y pense même pas.
Non, vrai,
tu comprends ce que je veux te dire ou pas ?
Moi, je pense qu'il n'y a que Rabbi Israël qui a réussi à être en simra.
Ah, Rabbi Israël Cardouneur aussi, ils étaient dans une simra. Attends, justement, écoute, t'as raison à ce qu'elle dit. Il a été en Simcha, d'accord, Rabbi Israël, dès qu'il a connu le livre, le fameux livre, les copines. Et dès qu'il a lu les penchements de l'âme, d'accord, alors sa vie, elle s'est transformée. Et donc, il s'est attaché à Rabbeinu, après Rabbi Israël, machin et compagnie. Il a passé toutes les galères qu'on connaît pour celles qui ont lu le livre, celles qui ne l'ont pas lu, je vous invite à le lire. Et, ok, et donc, il a passé tout ce qu'il a passé. Et c'est vrai, elle a raison dans ce qu'elle dit. Il a eu une vraie chute à un moment donné quand il a mangé le 17 Tammuz, d'accord ? Mais cette chute, c'était en réalité une élévation véritable pour tout le Ham Israël. Parce que Rabbi Israël, de par cette chute, d'accord ? On a eu la révélation du Pétek, qui est Béhémeth, d'accord ? Le chant de la Géoula. Tu comprends ? Donc, c'est dur d'être Bessimcha tous les jours. La vie, elle est faite comme ça, que tous les jours, on te rattrape.
C'est une mission impossible.
Non, viens, on ne dit pas ça, c'est possible.
Tout le temps d'être en cette
si tu prends, tu sais quoi ?
C'est mentir.
Tu sais ce qu'il a dit à Rabbeinu ? Rabbeinu, il a dit, écoute-moi bien, ça aussi, c'est un conseil de vie. Il a dit, écoute, apprends une chose. La vie est un jeu, mais ne te prends pas au jeu. Toute l'histoire, elle est là, c'est que nous, on est pris au jeu. Mais écoute, on va arriver. 2 secondes, parce que je veux arriver à un truc... Alors, il te dit comme ça, c'est pourquoi le sage qui prend la peine de réfléchir s'efforcera de transformer cet effort pour le consacrer à la Torah, car c'est pour l'effort dans l'étude de la Torah qu'il est né. En réalité, d'accord ? Ça que nous, maintenant, on s'est fait attraper par ce monde et qu'on a oublié le but véritable, bon, c'est une chose, mais pourquoi on est venu dans ce monde ? Pour servir Dieu, pour étudier la Torah, pour le glorifier. C'est ça notre truc. Et on a promis, ouais, on le fera, le glorifier à travers la vie qui va nous faire mener à Hachem. D'accord ? Bon, et que souvent, passe à côté.
Tout le temps dans la simcha, c'est une mission impossible.
Attends, on va voir. Dès lors, heureux soit-il, car ainsi il sera délivré des peines de ce monde-ci et méritera la vie du monde futur. Ça veut dire ici, et là maintenant on va commencer, d'accord ? Ça veut dire qu'ici il te dit comme ça, il te dit si déjà tu es né pour l'effort, d'accord ? Alors, à toi de décider où tu vas mettre les efforts. Le seul problème, il est où ? c'est que dès que on est dans ce monde, dès qu'on sort du ventre de notre maman, d'accord, on oublie la promesse qu'on a fait à Hachem de lui dire « T'inquiète, je sais c'est quoi ma mission, je sais pourquoi je suis venue, t'inquiète, compte sur moi ». On était sûr pourtant, mais dès qu'on sort du ventre de notre mère, on oublie tout et là, tout le travail, ça va être justement un travail de mémoire, se rappeler, essayer de rechercher, essayer. Et là, il te dit comme ça, Rabbeinu, nos pertes, exactement. Rabbeinu, donc, il nous dit comme ça, il conclut. Donc, Rabbeinu conclut ainsi. Tout le monde affirme qu'il existe un monde d'ici-bas et un monde futur. D'accord ? Donc, vous vous rappelez, on avait dit, il y a ici un monde, ok ? Et il y a un monde futur, d'accord ? Ça, c'est ce que tout le monde affirme. En réalité, pour ce qui concerne le monde futur, nous croyons qu'il existe un monde futur. Parce que, boy, t'as été, toi, là-bas, moi, j'ai pas été, et celui qui a été, il est parvenu. Donc, c'est une émouna qu'on a, qu'on se transmet, on va dire, c'est dans notre ADN, presque, d'accord ? C'est une émouna qu'on se transmet. Comme, c'est quoi la émouna ? Quand tu ouvres la paracha de Bereshit, d'accord ? Premier paragraphe, qu'est-ce qui a marqué ? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. T'as une preuve ? Non. T'as pas de preuve. C'est une émouna. T'as pas de preuve. Au commencement. Bah, peut-être qu'il y avait un autre commencement. Peut-être que c'est pas vrai. Qui c'est qui te le dit, ça ?
Et puis, c'est le commencement de quoi ?
En plus, d'accord ? Ça veut dire qu'on peut commencer à faire des trucs, des machins, ne pas finir. Ici, Hachem, il vient, il te le met comme une ouvda. Quoi, une ouvda en français, une évidence, c'est comme ça, c'est, ça bouge pas. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et ainsi de suite. D'accord. Alors ici, il te dit pareil. Il y a un monde futur, d'accord. On n'y a pas été, mais on y croit. Après, il continue, il te dit peut-être le monde d'ici-bas existe-t-il aussi quelque part dans l'univers. Parce que c'est quoi ce monde en fait? Ce monde-ci, en réalité, si tu réfléchis un petit peu par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est la course. Alors, on a parlé de la course matérielle, d'accord ? Maintenant, on va arriver dans la course, justement, spirituelle, entre guillemets. C'est que même dans la spiritualité, d'accord, tu veux arriver à quelque chose, tu veux faire des choses et tu n'y arrives pas. Et ça te procure, d'accord, des frustrations. Personne, elle veut faire Shabbat, une personne, elle mange kasher, l'autre, elle veut travailler sur la colère, l'autre, elle veut travailler, j'en sais rien, moi, sur le chesed, la tzedaka, ce que tu veux, ok ? Tu veux, tu n'y arrives pas. Ça te cause des frustrations, ça te cause des peines, ça te cause des colères. Il y a aussi, d'accord, ce monde-ci, il t'emmène à quoi ? C'est quoi le but de ce monde-ci, si tu réfléchis bien ?
L'orgueil, le kavod.
C'est de t'emmener au ta'avot.
De te dévier du bon chemin. Quoi.
Oui.
C'est de te... Ce monde-ci, en réalité, d'accord, il veut te dévier de la Torah et des mitzvot. Il veut te dévier, en réalité, de ce chemin pour lequel tu es venu. D'accord. Et comment il va faire ? Comment il va faire ? Puisque, écoute, puisqu'il te dit, ce monde, en fait, il est pourri. C'est que des angoisses, des peurs. Comment il va faire ce monde pour t'y emmener ?
Il va jouer sur ton Yetzer Hara.
De Yetzer Hara. Oui, mais d'accord, mais comment ?
Il va faire le plaisir.
Oui, les envies.
Ce monde va se recouvrir. Ça s'appelle être metsoupé. Metsoupé, c'est plaquer. Il va se plaquer d'or, de diamants. Ce n'est pas des vrais diamants. C'est du plaqué. Plaqué or, plaqué diamant, plaqué simcha. Plaqué du vent, plaqué Chanel, plaqué Dior, c'est tout du plaqué. Plaqué voiture, plaqué je sais pas quoi, maison, hein ? Qu'est-ce que t'as dit ? Plaqué AliExpress. Plaqué AliExpress, plaqué tout ce que... Plaqué bouffe. Écoute, c'est tout du fake en réalité. D'accord ? Il va... Mais c'est bien fait. C'est très bien fait, on y croit. C'est bien fait, c'est bien ficelé comme affaire. Et maintenant, tout ce plaqué, il t'emmène où en fin de compte ? Parce que regarde, en fin de compte, d'accord, si tu regardes, c'est vrai que ce plaqué, il peut être sympa.
Mais il t'emmène vers encore du plaqué.
Il t'éloigne d'Hachem.
Il te rajoute du plaqué.
Il va te ramener vers du plaqué, mais il va te ramener vers, mais il va te ramener vers quelque chose de très vrai à côté. C'est quoi? Tu l'as dit, Elo. La zvoute, la tristesse. La tristesse. Ce plaqué-là, sous forme de kiff. Fume un joint, tu bois un verre de vin, t'as acheté un sac, t'as acheté un vêtement, t'as acheté une voiture, t'as été en vacances, t'as tout ce que tu veux. Chacune prend ses plaisirs, d'accord? Manger du chocolat. Ce que tu veux, on s'en fout.
Oh,
on s'en fout. On s'en fout, et je t'ai pris tous les désirs, les plus grands, les plus petits. Hein?
T'as pas dit que c'était mal.
C'est pas mal. Est-ce que j'ai dit le mot mal, moi? Non.
Il t'éloigne de chaleur.
Mon il, va tout ce plaqué-là, toutes ces choses-là, d'accord, vont t'emmener, s'il n'y a pas, si tu veux, si ton... Si tu ne l'élèves pas véritablement, d'accord, dans la Torah et les mitzvot, mais ce monde, il ne veut pas que tu élèves dans la Torah et les mitzvot. Il veut au contraire te ramener encore plaqué pour du plaqué et encore, ce monde, qu'est-ce qui va t'emmener, tout ce plaqué, vers de la tristesse. Pourquoi? Tu remarques que je ne t'ai pas dit vers les avérot, malgré que la tristesse est la plus grande des avéras. On n'y croit pas, on dirait, bah, Shabbat, Kashrout, machin. Non! La tristesse est la plus grande des avéras. Mais pourquoi l'avéra? Pourquoi la tristesse?
Parce que tu as toujours besoin de plus.
Elle t'éloigne de
ta t'arrête pas. Oui, enfin, il y a plus d'attente de tristesse.
Elle apprécie ce que tu as et elle t'éloigne de la
chose. En faisant des avéras, on crée des clipotes. Et donc, en créant des clipotes, on vend encore moins la vérité. Et donc, on en crée encore plus. Et donc, il y a de moins en moins de lumière. Et quand il y a moins de lumière, par définition, quand on est dans le noir, c'est triste.
Oui, mais c'est quoi le... Ok, d'accord. Mais pourquoi Dafka, hein?
C'est
Maître, bien sûr que c'est Maître, bien sûr. Mais pourquoi Dafka la tristesse?
Parce qu'elle enlève tout sens du rationnel dans les décisions pour essayer de s'en débarrasser.
Elle enlève quoi? Attends, répète.
Tout sens de rationnel.
Ouais.
Quand on est triste.
Ouais, ouais.
Quand on est perdu, on ne se rend même pas compte qu'on est triste. On est juste perdu, on n'a pas de joie, on n'a pas d'essence. On est prêt à prendre des décisions qui sont irrationnelles.
On rentre dans la folie, quoi.
D'accord.
On rentre dans la folie. Par exemple, on est énervé, on va s'énerver dans une proportion disproportionnée.
Nahon.
Pourquoi? Parce qu'on est énervé. Mais pourquoi c'est disproportionné? Parce que ça nous aveugle.
Tout à fait. Maintenant, pourquoi la tristesse véritablement? Parce que la tristesse, c'est la mère de toutes les impuretés, c'est la mère de toutes les écorces, comme tu as dit, c'est la mère de toutes les avérotes. Quand Akadosh Baruch Hu, d'accord, il a créé le monde et qu'il y a eu, des zougotes, d'accord, ça veut dire des couples qui se sont faits, le Satan, il est venu, il a dit, il est arrivé. Quand Hachem, il a voulu donc tout clôturer, tout fermer, il a dit, et moi? Tu m'as pas fait une conjointe. Le Satan qui a dit ça à Hachem, il a dit, mais tu m'as pas fait une conjointe. Hachem, il dit, ok, alors va chercher. Va chercher qui tu veux prendre avec toi. Qui c'est qu'il a été chercher?
La tristesse.
Pourquoi? Parce que le Satan, lui, il va juste, le Yetzer Hara, le Satan, il va te faire des avérotes. Mais et alors? Après tout, et alors? L'avéra ne t'appartient pas. L'avéra, si tu veux, elle n'a pas de sens. Par contre, quand la tristesse, elle vient et elle se colle à toi, comme tu as dit, c'est très vrai, d'accord, tu perds en réalité tout ton attachement avec Hachem. Tu perds, ça veut dire ton essence juive. Là où il y a de la tristesse, il ne peut pas y avoir Akadosh Baruch Hu. Pas que Chas v'Shalom, Hachem, il s'en va, que Dieu préserve, parce qu'Hachem, il est toujours là. Mais
il n'y a pas de place pour lui.
Toi, tu crées un monde où il n'y a plus de place pour Hachem. Souvent, on pense, d'accord, que c'est la Avera qui nous met dans cet état. Tu dis, je me suis éloignée d'Hachem, ce que je fais. Mais alors, dans ces cas-là, ça veut dire, la plupart de nous, on n'est pas avec Hachem.
Mais c'est vrai, dans l'absolu, Yael, d'accord, les Averot, comme elle a dit Myriam, à force d'en faire, ça nous emmène à la tristesse.
Nachon, mais si maintenant...
C'est vrai.
Mais si maintenant, justement, tu arrivais à comprendre et à te dire, à ne pas te laisser, attraper par, justement, le Yetzer Hara qui te dit, les Averot, tu ne vas pas rester avec Hachem, tu ne vas pas aller voir Hachem. Qu'est-ce qu'il te dit, Rabbeinu? Rabbeinu, il te dit, écoute bien, même dans la Avera, tu manges du porc. Parle avec moi. Dis-moi, je t'aime, Hachem, quand même. Ce que tu vois là, c'est pas moi. C'est cette folie, ce vent de folie qui m'a attrapé, qui fait que je ne suis plus moi-même. Mais moi, moi, mon essence, moi, je t'aime. Je veux pas t'abandonner. La Vera, elle tient pas. T'as pas, mais c'est quoi l'enfer de neige? C'est cette tristesse. Tu comprends? C'est cette tristesse et cette culpabilité, comme tu dis, qui va venir se coller à toi. Et là, tu peux plus bouger. T'es enfermé dans ton monde. Tu vas devenir une véritable esclave.
Mais c'est très fin, parce qu'il y en a après qui se permettent de faire des
agences. Attends, encore une fois, attends.
Pas quoi? Pas si c'est vrai.
Oui, mais combien on est vrai?
Voilà.
Combien on est vrai? Viens, sois honnête. Myriam, sois honnête.
Ouais, je parle à HM, et voilà.
C'est clair, c'est très fin, t'as raison. Écoute, qui peut dire, tu peux dire une chose, d'accord? Comment tu te permets de faire des avérotes? Pourtant, t'as l'air de quelqu'un de vrai. Comment tu peux te permettre de faire des avérotes?
J'ai pas dit que je m'autorisais de les faire et que je déculpabilisais de les faire, mais je ne laisse plus le sens, la culpabilité, où je m'efforce de ne pas laisser la culpabilité de me rentrer dans la tristesse. Je vais donner un exemple tout simple. Et vraiment, j'ai été voir pendant le deuxième confinement une amie qui est rabbad, religieuse. Moi, je ne suis pas religieuse.
Ne dis pas ce mot, non, je n'aime pas.
On s'entend bien que
tu es juive. Tu n'as pas l'aspect extérieur.
Non, mais pas, même pas, je ne fais pas Shabbat. Je ne garde pas Shabbat. Je différencie le Shabbat.
Amen que tu le fasses.
Amen.
Si Dieu veut que tu vas sortir ton esclavage.
Je différencie le jour des autres jours, mais je ne garde pas le Shabbat. Et même quand j'ai essayé de le garder, je vais être la plus honnête, j'étais hypocrite, c'était à mon niveau. Et je parlais à cette amie et je lui disais en pleurant, elle me donnait des forces, elle me dit « Mais regarde comment tu passes !» Mais moi, que je parle, je ne suis même pas capable, je donne des leçons, j'essaie de te remonter, t'as la tête qui souille, t'as la jupe longue, je ne fais même pas Shabbat, je ne vaux rien. Et je lui disais ça en pleurant. Elle me dit « Ça, c'est de la terre. »
Regarde comment ta Neshama, elle pleure.
Elle me dit « Ça, c'est de la terre. » Elle me dit, je vais te raconter une histoire. Ma mère, elle est morte. Et je porte les bracelets de ma mère. Et un Shabbat, mon frère, il venait, ça fait longtemps, et on n'avait pas encore fini l'année. Et je portais les bracelets et j'étais contente. Et je me suis sentie coupable d'être contente parce que je n'avais pas le droit d'être en joie l'année de ma mère. Mais c'est quoi ça? Elle dit, j'ai rêvé de ma mère, assise. Ça va? Tu vas bien? Oui. Tu es sûre que tu vas bien? Oui. T'es heureuse? Oui. Non, mais t'es sûre, parce que je suis fatiguée, j'aimerais retourner d'où je viens. Et elle m'a dit, et tu vois, pourquoi elle me raconte l'histoire avec le bruit avec les bracelets? Elle m'a dit, Myriam, tu vois, tu veux toucher un interrupteur? Enlève-le. Une fois. Hachem, il voit les efforts.
Bien sûr.
Exactement ça.
Mais c'est ça, de toute façon.
Et donc, c'est pas parce que j'enlève ce sens de culpabilité, puisque vous voyez avec les larmes aux yeux, que j'ai pas envie de le faire.
Bien sûr. Mais écoute, il y a un temps pour tout dans la vie.
Donc elle disait, ça nous pousse, ça nous dédouane de faire des avérotes. Ça dépend si on est vrai.
Non, ce qu'elle veut te dire, Elodie, c'est que tu peux, d'accord, tu peux, si tu... Regarde.
Je dis pas que j'ai ce degré avec des avérotes, on est clair.
Écoute une chose.
Non, mais c'est chacun son...
Regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Regarde.
Quand les gens sont pratiquants, ils vont se dire, je peux me permettre une avéra parce que je parle à HM, je suis attachée à lui, c'est la méchante. Et il y en a beaucoup, et comme ça.
Myriam, regarde. Là, tu as pris l'exemple du Shabbat parce qu'en réalité, tu vois, ça, c'est la mitzvah de ta vie. Ton âme, elle pleure, elle hurle, d'accord? Parce qu'elle est attrapée. Pourtant, je pourrais te dire, ton pantalon. Non, tu pleures pas pour ton pantalon, tu pleures pour ton Shabbat parce que ça, c'est la mitzvah de ta vie, d'accord? Donc, ta neshama, elle hurle, elle pleure, elle souffre, elle te dit « Myriam, Myriam, Myriam ». Et ça va venir.
Je pleure pas de tristesse, je pleure.
Non, attends. Écoute, ça va venir.
Quand je suis heureuse, quand je suis aimée, quand je suis heureuse.
Bah, au Hachem. Ça va venir. Ça va venir. Pourquoi? Parce que il y a un temps. Ta neshama, tu comprends? Elle a tous les, à chaque instant, encore, jusqu'à 15 jours, toc, elle est délivrée. Ok? Maintenant, ce qu'elle veut, ça, c'est parce que toi, t'as parlé, si tu veux, de la mitzvah de ta vie que ta neshama, elle attend. Ok? Maintenant, ce qu'elle veut te dire, Elo, et c'est très juste, parce que Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, tu peux interpréter mon Likuté Moharan comme tu veux. Mais il te fait une éhara. Ça veut dire une, comment on dit une éhara, un avertissement. Il te dit, mais ne t'éloigne pas des arba amot de la halakha. Ça veut dire quoi? Ne t'éloigne pas des quatre points de la halakha. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Quand tu étudies la Torah de Rabbeinu, je te promets que tu peux planer et dire, bah écoute, Aïkar, la volonté, Aïkar, la simcha, et tu sais quoi, vas-y, je fais pas Shabbat, et je suis besimcha, on pourrait y arriver. Rabbeinu, donc il vient, il te dit, je sais que ma Torah, et surtout, d'accord, parce que tu comprends bien que le Breslev d'aujourd'hui et le Breslev il y a 200 ans, 100 ans, ou même 50 ans, c'est pas le même. Donc, plus on va avancer vers Mashiach, plus on va être dans la détente la plus totale en te disant, bah écoute, je prends mon joint, mon verre de vin, je suis à la plage en boîte de nuit, mais je suis en simcha. C'est-à-dire que c'est une Torah qui peut te faire planer en réalité, la Torah de Rabbeinu. Ouais, mais il vient, il te prévient. Bah, bien évidemment, elle te fait planer à la mort, tu comprends? Ça veut dire, t'es là, tu te dis, mais il te dit, écoute, attention, bien sûr, mais... Encore une fois, même ceux qui planent, ça aussi c'est une volonté d'Hachem. Comme toi qui ne fais pas Shabbat, mais qui pleure pour ton Shabbat, c'est une volonté d'Hachem. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est dur à croire hein, d'entendre ça, mais tout c'est une volonté d'Hachem. Hein?
Le plus dur, c'est parce qu'on est bloqué dans la halakha.
On est, bien sûr qu'on est bloqué.
Là où il a voulu, la nouveauté qu'il a voulu amener, c'est que tout en faisant cette halakha et en respectant, au lieu de le prendre comme il prenait avant, comme une angoisse, et ah, je suis tombée, et la faute, et je sombre, et donc en fait, en agissant comme ça, il s'est éloigné d'Hachem puisqu'il est tombé dans la tristesse. Et lui, il vient, il te dit, bon, en fait, non, tu tombes, et il te donne des moyens de vivre.
Oui, il te donne des tipines.
De la meilleure façon possible, en fait.
Tout à fait.
En simcha, en te relevant, en acceptant.
Attends, qu'est-ce que tu as voulu dire par là, toi, Elo, quand tu as dit on est bloqué dans cette halakha?
Répète ça, Elo, parce que ça nous a perturbé grave.
Là, en fait, il y a deux catégories de personnes. Tu vois, tu as les gens qui démarrent, entre guillemets, dans Vassel. Ils entendent que l'essentiel, c'est la simcha. Ils ne sont pas spécialement à la halakha, ce pas des orthodoxes, d'accord? Donc ils ne sont pas spécialement à la halakha. Donc si tu veux, ils sont en mode l'essentiel c'est la simcha. Donc si je fume Shabbat, l'essentiel c'est que je suis besimcha Shabbat, etc. Parce que Rabbeinu il met l'accent à fond sur l'essentiel c'est la simcha. Et pas la Yirat Shamayim et tout ça, ça vient après. Donc c'est vraiment. C'est très nouveau d'ailleurs, parce que tout le monde dit que c'est la Yirat Shamayim. Mais en vrai, Rabbeinu il demande de ne pas bouger de la halakha. Mais alors maintenant, en étant dans la halakha, c'est très dur d'être besimcha.
Parce qu'en réalité, quand tu es dans la halakha,
t'as
la rigueur de la halakha, et donc tu peux plus être dans l'état avot.
Oui, mais
l'état avot, c'est ce qui te procure ta simcha, puisque n'oublie pas, ce monde-ci, c'est un monde de ta avot. C'est entraîner dans une tava et encore une tava. La tava, c'est, tu sais, la tava, c'est très, très, mais très large.
Est-ce que la réalisation de la simcha ne peut pas t'apporter, la réalisation de la mitzvah ne peut pas t'apporter la simcha?
Oui, mais ça, c'est un travail encore. Tu comprends ce que je veux te dire? De faire une mitzvah, bien sûr, en réalité. Si on prenait conscience de ce que c'est qu'une mitzvah, on serait en simcha quand on fait une mitzvah. T'as raison. Mais le problème, c'est que même dans ta mitzvah, le Yetzer Hara, il se mêle. Même là, il va venir, tu comprends, il va venir t'embrouiller dans ta tête. Donc, à chaque instant, en réalité, tu comprends, tu as d'un côté cette simcha que tu dois avoir, et c'est vrai que c'est aussi fin qu'un cheveu, d'accord? Et de l'autre côté, ben, tu as tout ce monde qui, à chaque fois, t'essaie de t'embrouiller. Donc, tout le problème, il est où? C'est que Rabbeinu, il te dit ici, il te dit, ce monde-ci, oui.
C'est possible, je ne dis pas du tout qu'on est à ce niveau et qu'il n'y en a aucun qui soit à ce niveau, dans cette période, mais c'est possible parce que la simcha qui fait plaisir quand on est en simcha, quand on fait des mitzvot, c'est très sain. Les lois, les halakhot, c'est la boura, et donc c'est Yaakov.
Mm-hmm.
Et Yaakov, il est et spirituel et physique.
Nachon.
C'est Yaakov et Israël.
Nachon.
C'est possible.
Oui.
On ne dit pas que ce n'est pas possible.
C'est,
on dit que c'est
un travail.
C'est un travail, mais ce n'est pas impossible.
Et tu sais quoi? Regarde, c'est un travail, et c'est sur ça que Rabbeinu, il a dit, kol haolam kulo gesher tsar meod. Tout ce monde-ci, c'est un pont très étroit. C'est quoi, très étroit? En réalité, c'est étroit comme un cheveu. C'est fin. Avala ikar, lo leit paren. L'essentiel ne te fait pas peur à toi-même.
Oui.
C'est quoi, dans ton dimion? Ne laisse pas ton dimion. C'est qui, lo yetzerara? C'est ton dimion, c'est ton imagination. En général, ton imagination, elle va t'emmener toujours, d'accord? Je te dis encore une fois, en général, sauf si on fait un travail, mais le dimion qui est le Yetzerara, il t'emmène toujours vers ce Olam Hazeh, donc les catastrophes, les angoisses, les stress, les machins. C'est une lutte. Mais Rabbeinu, il te dit, d'accord? Tu dois pas te faire peur. C'est-à-dire, rien, tu bouges pas. Ne te laisse pas impressionner par ce monde-ci. Ne te laisse pas impressionner par tout ce que tu vas voir parce que tout, c'est du fake.
Mais
bien sûr, tu peux dire. On est là pour ça.
Israël, il était dans la
halakha,
il était
simra.
Bien sûr.
Oui.
Ah, bah tu vois. Ah, là.
Bien sûr, la
Mais la plus petite soit-elle.
Ouais, dans la
plus petite soit-elle, peut apporter. Je crois.
Mais c'est clair que tu as raison.
Il l'a fait, même si elle n'est peut-être pas faite. Ça lui apporte de la cifra parce qu'il est conscient de ce qu'il a fait.
Alors justement, plus tu vas avoir de la conscience, plus ton niveau de conscience va grandir, plus ton Yetzer Hara va devenir encore plus fin. Et il va t'embrouiller. Ah, t'as pas fait comme si. Et toi, tu dois éloigner ça. Tu dis, c'est pas grave, ce que j'ai fait, c'est déjà très bien. T'as compris le travail, bien sûr. C'est ça, le travail. Plus tu avances dans Torah et Mitzvot, et plus ton niveau de conscience, il change, et devient de plus en plus fin. Et donc, ton Yetzer Hara aussi, il devient de plus en plus fin. Regarde ce qu'il dit ici. Oui. Oui, on t'a pas dit. Oui, on t'a. Mais.
Parce que moi, je suis sortie.
Attends. Écoute. Attends, tu sais ce que c'est? Tu sais c'est quoi doucement, doucement? Tu sais c'est quoi doucement, doucement? Écoute. Steph, tu sais c'est quoi doucement, doucement? C'est pas doucement, doucement, c'est si tu veux. C'est pas obligatoirement dans les actes et tout ça. C'est apprendre, comprendre ce qui se passe. Parce que, encore une fois, par exemple, voilà, on va prendre l'histoire de Myriam, d'accord? Elle veut pas allumer la lumière. Elle prend son Shabbat, elle dit, oh, ce Shabbat, j'allume pas la lumière, c'est sûr, ta 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 ta. Bon, et puis après, c'est fait avoir, elle allume la lumière.
Non, d'accord, elle m'a juste dit, elle travaille sur la gamme,
non, mais imagine. Imagine, écoute, imagine, d'accord. Bien sûr.
Je dois pas le faire.
Attends.
Mais elle m'a fait comprendre. Mais c'est là où il t'a.
Bien sûr. Ça veut dire, imagine qu'elle t'avait pas parlé. Tu te dis, je vais faire Shabbat. Aujourd'hui, je vais pas allumer l'interrupteur. Et toi, tu vois, hop, t'es tombé, d'accord. Quand tu tombes justement et que tu rentres dans la tristesse, la culpabilité, et puis le sentiment d'échec. Là, j'ai pas réussi. Et puis après, je peux plus rien faire parce que je n'ai pas fait Shabbat, donc ça sert à rien après. Tout ça, en réalité, d'accord, c'est pas vrai. Et donc, tout le truc, c'est quoi? C'est que cette tristesse après que tu vas développer et qui va se coller à toi, elle va t'emmener au ta'avot. Tout le but de ce monde, c'est de t'emmener dans les ta'avot. Pourquoi? Parce que la ta'ava, elle te rend esclave. T'es addict. Ce mot-là qu'ils ont inventé aujourd'hui, d'addict, je crois que c'est nouveau. Addict, c'est l'esclavage, tout simplement. Il n'y a pas autre chose. Tu comprends? Toute la tristesse, le but de la tristesse, c'est de t'emmener justement, d'accord, à une addiction de la tristesse. Tu ne peux plus bouger, tu deviens esclave. Tu peux plus rien faire. Et regarde ce qu'il te dit ici. On la termine. Alors, il te dit comme ça. Peut-être le monde d'ici-bas existe-t-il aussi quelque part dans l'univers. Car ici, ce monde semblerait n'être que l'enfer. Ça veut dire, vu d'ici, quand tu écoutes la vie de chacun, d'accord, c'est des enfers. Chacun, il a son enfer. Vu d'ici, ça veut dire, sans sans avoir une perception d'Hachem, sans justement rentrer Hachem, la vie c'est un enfer. Toi tu souffres parce que tu fais pas Shabbat, moi je souffre parce que j'ai ceci, l'autre elle souffre. Chacun il a son problème. Chacun il a son point noir dans sa vie. Tu comprends ce que je veux te dire? Et chacun, le Yetzer Hara, il sait où il l'attrape. Elle, par exemple, elle s'en fout du Shabbat. Eh ben, elle a dit, bah, moi, ça ne me fait rien de ne pas faire Shabbat. Mais parce que ce n'est pas sa réparation. Tu comprends? Sa Neshama, elle va peut-être pleurer pour son pantalon. L'autre, elle va pleurer parce qu'elle met du rouge à lèvres Shabbat. L'autre, parce qu'elle mange du porc. J'en sais rien, chacun son histoire. Tu comprends? Donc, il te dit, si vu d'ici, d'accord, ça semblerait n'être que l'enfer. Car tous sont accablés de grandes et constantes souffrances. La tava, ce petit plaisir de quelques minutes, d'accord, où tu kiffes, où tu crois que c'est le grand bonheur, en réalité, ne fait que te rentrer encore plus et encore plus dans la souffrance. C'est ça, ce monde-ci. Ce monde, il est, comme on a dit, metsupé,
voilé,
plaqué, d'accord, de tout ce que tu veux. D'accord, de toutes les beautés, c'est ça, scintille, c'est beau, c'est sympa, des fêtes et des machins. Mais en réalité, tout ça, c'est pour te mettre, rentrer dans un esclavage.
Ah ouais, donc c'est ça l'enfer. Parce que dans l'autre monde, il
n'y
a plus tout ça.
Bidiouk, et il termine en te disant, et peut-être que ce monde d'ici-bas n'existe pas du tout. Ça veut dire en réalité, c'est toi en réalité qui le fait exister ou pas. C'est soit tu t'attaches à ce monde-ci en lui donnant justement tellement d'importance, d'accord, c'est que tu l'as fait exister, ce monde. Tu as donné à ce monde une importance, d'accord, qui fait que c'est ton monde. Ça devient ton essentiel. Et donc tu t'attrapes, les crises, les colères, les machins. Mais si ça se trouve, en réalité, tu peux aussi ne pas du tout t'attacher à ce monde et avoir une prina du Olam Haba. Ça veut dire un prina, comment on dit la prina, un avant-goût de ce que c'est le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est quoi en réalité? C'est de voir tout avec Hachem. Ça veut dire même quand je suis dans ma tava, dans ma souffrance, dans ma peine, dans l'échec qui n'existe pas, des rechagav. D'accord, l'échec n'existe pas. Dans tes chutes et dans tout ça, si tu arrives à prendre un recul et à dire, mais tout ça en réalité, attends, je reprends tout. Au-dessus, il y a quoi? Au-dessus de mon Shabbat, de mon échec, de mes peines, il y a Hachem. Donc, tout découle d'Hachem. Tu comprends? Et à ce moment-là, quand tu arrives à vivre ça, quand tu es dans ton épreuve, tu te détaches de ce Olam Hazé qui n'existe plus et donc qui ne vient plus te coller toute sa poubelle. Ouais. Tu sors de ton esclavage. Ta vie, elle est comme elle est. Chacun, il a sa vie. Chacun, il a son épreuve. Chacun, il a son fardeau. Chacun, il a sa souffrance. Et tu dois te dire, ça, c'est le mieux pour moi.
Mais parfois, on la rajoute, notre souffrance, justement, à cause de l'illusion.
Mais parce que, justement, tu te fais quoi? C'est quoi ton dimion? C'est ton Yetzer Hara. C'est ce qu'il te dit. Rabbeinu, il te dit, n'appelle plus le mot Yetzer Hara, il n'existe pas. C'est du dimion. Ton Yetzer Hara, c'est ton imagination, c'est tes illusions. Si maintenant, justement, vous rappelez ce qu'on avait parlé la semaine dernière, le Inyan du Ratsouï et du Matsouï, tu n'étais pas là. Il y a le ratsouï. Le ratsouï, c'est moi, ce que moi je veux. Et il y a le matsouï, c'est ma réalité, c'est ce qu'Hachem me fait vivre. Si je suis capable d'annuler mon ratsouï et vivre mon matsouï, automatiquement, je suis tranquille parce que je me dis, écoute, t'étais pas là, tu l'écouteras sur le site si tu veux. Tu te dis, c'est Hachem. C'est Hachem qui fait ça. C'est Hachem qui veut que je vive ça. Quand tu es dans ton Shabbat, d'abord, attends, je vais te dire une phrase que sûrement que tu ne connais pas parce que tu n'étais pas là et je ne pense pas que tu écoutes tes cours. Il y a une phrase que Rabbeinu, il a dit, il faut dire avant d'allumer tes bougies. Écoute-la bien, elle est merveilleuse. Tu parles en hébreu ou pas du tout? Bon. Maître du monde, je m'abandonne à toi ainsi que tous mes proches et toutes les personnes qui me sont attachées. Que ce soit ta volonté, que toutes mes pensées, mes paroles, mes gestes et mes actes ne soit que selon ta volonté. D'accord ? Je t'envoie tout chez toi et toi, tu vas façonner comme tu veux. Moi, je te fais confiance à 1000%. Oh, Rabbeinu, il a dit, quand tu dis ça...
C'est le matin dans la prière, quand on dit Kertzono.
Oui, mais tu le dis... Tu dois la dire tous les jours avant... Dès que la nuit, elle tombe, tu la dis parce que c'est le commencement du jour. Rabbeinu, il a dit, quand tu dis cette phrase, d'accord, automatiquement, t'es bien. Parce que comme c'est passé ton Shabbat, Hachem, il va arranger. Tu crois qu'Hachem, il ne peut pas changer une mitzvah, une avéra en mitzvah? Il peut tout changer. Ce qu'il faut, c'est que, justement, tout, comment? Par ma marchava.
Le Shabbat que je ferai un jour, les avérotes, elles...
Tout va se transformer en mérite. Mais tu veux que je te dise quelque chose? Chaque fois que tu es en pleurs parce que tu ne fais pas ce Shabbat, tes avérotes, elles sont déjà en transformées. Parce qu'elles vont chez Hachem et elles disent, mais on n'a ni pied ni main, même pas le kiff, la fille. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça n'a aucune odeur, ça n'a rien, il n'y a pas de goût, il n'y a rien. Les bidons, ton avéra, elles ne vaut rien. Tu te rends compte? Elles vont chez Hachem et elles disent, mais on n'a rien, tout se transforme. Plus tu vas te transformer, écoute une chose, Myriam.
C'est une question de temps.
Tout, plus tu vas te renforcer, je ne parle pas pour elle, pour nous toutes.
Bah oui.
Plus on va se renforcer dans la simcha, et plus on va avoir de la force pour lutter contre ce monde-ci, contre le plaqué de ce monde-ci. Tout le médicament de ce monde, c'est la simcha. Quand tu as de la simcha, tu as un discernement. Tu peux voir, attends, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Alors que quand tu n'as plus la simcha, tes yeux ils sont voilés.
Tu peux pas arriver à faire tout. Tu peux accepter le temps d'y arriver.
Mais c'est évident.
Oui, mais alors, pas le problème du temps,
c'est quand même
Pourquoi? Parce que tu te dis, mais j'avance, il faut que je termine, il faut que j'y arrive. Le résultat, il n'est pas dans tes mains, il a dit Rabbeinu.
Non, mais par exemple,
si on lutte avec moi, de rien. Il y a des gens, parce que leur Shabbat,
je dis, je prie à chaque Shabbat,
je fasse.
C'est ton Yetzirara.
Il reste plus longtemps.
T'as compris le Yetzirara?
Bien
sûr, mais ne regarde même pas ça. Écoute, ne regarde pas ça.
Et je me dis, je ne suis pas encore capable. De faire le reste.
Non, tu es capable, c'est juste que tu veux pas.
Je me sens pas prête, ou je veux pas. Enfin,
mal mariée. Mal
mariée.
Elle est partie.
Tu dois pas. Oui, mais tu dois te dire, le résultat, il n'est pas dans mes mains.
Le temps, je veux bien, mais il y a un moment donné où, comme je dis, arrive à dire, le temps.
Bien sûr, mais tu dois te dire, moi, je suis dans les mains d'Hachem. Bien sûr, mais moi, tu t'en remets à Hachem. Ce que tu fais, et après, Hachem, il organise tout. Qu'est-ce qu'il en a dit? Je t'envoie tout, t'organises au mieux, je te fais confiance. Alva, qu'on y arrive, tu vois. Tu crois que c'est facile, c'est dur parce que ça veut dire que tu vas aller à l'encontre après de tout ton Yetzerara.
Oui,
tu comprends?
Tu ne te
déresponsabilises pas, au contraire. Tu prends conscience que tout est au-dessus et que c'est Hachem qui dirige son monde.
Comme elle disait,
mais quand tu fais Hitbo des doutes, tu verras que tu arriveras. La Hitbo des doutes, c'est ça qui t'emmène.
Dans l'épreuve.
Les copines, on va terminer. C'était le dernier cours avant Pessah. Si Dieu veut, je nous souhaite à nous toutes de sortir de notre esclavage, d'avoir le mérite, Bémet, de prendre conscience, d'accord, de notre richesse, de la chance que nous avons d'être les filles de Dieu, de nous renforcer, Bémet, dans la simcha, et d'être heureuses de ce que l'on est, et ne pas regarder le négatif que nous avons, parce que ce négatif n'existe pas, c'est de l'illusion. Nous ne sommes que dans le positif. Hachem est fier de nous, parce que malgré nos imperfections, malgré nos manques, n'oubliez pas une chose, nous sommes à chaque instant de notre vie des volontés d'Hachem. Donc, en pensant comme ça, doucement, doucement, j'arrive à sortir de mon esclavage et donc à ne plus donner de la force à ce monde, d'accord, qui ne veut qu'une chose, c'est justement me garder en tant qu'esclave. Amen, Kenny Ratson, Bezrat Hashem. Chag Sameach à vous toutes.